Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hola, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouvel épisode du calendrier de l'Avent de Simple Caféine. J'espère que vous êtes bien installés ou je sais pas ce que vous êtes en train de faire. Peut-être c'est le matin, peut-être c'est le soir, peut-être que vous rattrapez les podcasts le week-end. Je suis actuellement dans mon lit, je ne suis pas toute seule.
C'est plus bizarre de dire ça. Personne s'attend à entendre ma voix quand tu dis ça.
Je suis avec Marie. Coucou Marie.
Hello, ça va ?
Ça va et toi ?
Oui, oui, oui. Bah écoute, moi je suis bien, j'ai un petit café fait par Léa elle-même, donc je suis forcément très heureuse.
Vous savez, c'est un peu un mood de cocooning, genre mon lit, c'est un peu comme avant. Avant, il n'y avait pas de studio. Tu vois, quand j'enregistre des podcasts, normalement, bah, je suis en studio avec mes invités et tout. Là, les podcasts n'étaient pas, enfin, le studio n'était pas libre. Du coup, on se retrouve dans mon petit appartement parisien.
Et de toute façon, comme on dit, c'était mieux avant. Horrible, cette
c'est horrible.
De
ça, ça veut vraiment dire que, genre,
souvent, un peu boumeuse.
Ouais, t'es un peu genre 50 ans là quand tu dis cette phrase, Marie.
Aïe, aïe.
Voilà, le décor est posé. On a deux micros, on est dans mon lit et on va faire un épisode que tu sais quoi, j'avais trop hâte de le faire avec toi parce que je pense que t'es la personne parfaite pour faire cet épisode. Quand j'ai créé ce concept, j'ai pensé à des gens un peu comme toi.
Ok.
Genre ça fait longtemps qu'on... Bah déjà, qui es-tu, que fais-tu en fait ?
Alors attends, c'est trop dur de synthétiser mon métier, mais je m'appelle Marie, connue sur les réseaux sous le pseudo Enjoy Phoenix et je fais des vidéos sur YouTube depuis 12 ans. Entre temps, j'ai fait beaucoup de choses. J'ai sorti des livres, sorti des boutiques en ligne, créé un compte Instagram, créé un compte Twitch. Enfin bon, bref, je ne vais pas énumérer tout ce que je fais, mais voilà. Et récemment, un podcast, enfin même deux. Et voilà. Donc voilà ce que je fais. Je suis sur les réseaux depuis bien trop longtemps, une vraie vieille dame.
Attends, t'as quel âge, Marie ?
28.
Ok. Connais-tu Simple Caféine ?
Oui, tout à fait. Je l'écoute. À mes heures perdues. Non, j'écoute plein de podcasts. Et j'écoute aussi beaucoup de podcasts en anglais. J'ai toujours été en fait fascinée. En fait, j'ai besoin, tu vois, quand je conduis ou quand je suis dans les transports, d'écouter un truc. Et je me suis lassée d'écouter de la musique. Donc, il y a 2-3 ans, je commençais déjà à mettre mes vidéos YouTube que j'aimais bien regarder. Bah, je les mettais juste en audio. Et ensuite, je me suis dit, mais attends, Marie, il y a un truc qui existe, ça s'appelle des podcasts. Et j'ai commencé à en écouter comme ça. Donc, ça fait bien longtemps que j'en écoute. J'aime bien ça.
Non, mais t'as raison, parce que moi aussi, même maintenant, genre, il y a plein de vidéos YouTube que je ne regarde plus, mais vraiment que j'écoute, tu vois, en background, et c'est ça. On s'est rencontrés il n'y a pas très longtemps pour la sortie de ta nouvelle marque.
Ouais.
Et c'est vrai que c'est là que tu m'as dit que t'écoutais mon podcast, je ne m'y attendais pas du tout.
Pourquoi ?
Bah, je sais pas, parce que je pense que je suis un peu dans le déni avec Simple Caféine, genre je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui écoutent Simple Caféine, et je suis trop contente, mais en même temps, je ne me rends pas compte.
Tu sais, c'est un petit peu comme quand je rencontrais des abonnés à l'époque et même encore... Alors aujourd'hui, ça me le fait moins parce que j'ai pris l'habitude, mais la toute première fois que j'ai rencontré des abonnés dans la rue et qu'ils m'avaient reconnue via mes vidéos YouTube, j'étais comme toi, j'étais dans un déni total en mode « Mais attends, mais donc les chiffres que je vois sur mon écran sont en réalité des vraies personnes. » Et ça m'avait fait un choc, je me souviens à l'époque. Donc il faut que tu dépasses ce stade.
Non, mais c'est vrai. Et tu sais qu'on dirait pas, mais ça fait très longtemps que je suis sur les réseaux. J'ai retrouvé une capture d'écran de quand j'ai créé mon... compte Instagram qui s'appelle Léa JPLF et maintenant c'est bon, casser le mythe parce que je l'ai un peu dit partout et pour que les gens le sachent. JPLF, ça vient de Juste pour les filles parce que j'avais une page Facebook Juste pour les filles en 2013.
Je te crois pas.
Je te jure. Et regarde, j'ai retrouvé ça.
Oh misère.
Sans abonnés, je rends Léa JPLF, vos pseudos en commentaire, love love, 2013. Et en 2014, j'avais déjà genre 10 000 abonnés mais je montrais pas ma tête.
Je savais pas ce que ça voulait dire JPLF. Et tout à l'heure, quand je suis venue chez toi, j'ai cherché sur l'interphone un nom qui commençait par J, ou tu vois, genre, je me suis dit, il y a un truc, et je me sens vraiment bafouée.
Bah voilà, je sais même plus pourquoi est-ce qu'on disait ça, purée.
C'est très drôle.
Et puis attends, on a fait un dîner il y a pas longtemps, et tu m'as dit un truc, c'est un peu une fierté de mon année, genre je vais un peu le mettre dans mon année 2023. Tu m'as dit que j'étais dans ton Spotify rap.
Ouais. Alors ça, vraiment.
Je m'y attendais pas.
Faudrait que je te fasse le screen, faudrait que je le retrouve, mais c'est hallucinant. Bah, en fait, tu sais, comme du coup, j'écoute quand même beaucoup de podcasts, je me suis rendu compte que cette année, dans mon Spotify Wrapped, j'avais énormément de podcasts. Enfin, c'était limite la catégorie que j'avais le plus, suivie de metal et punk, évidemment. Mais c'était quand même... T'étais dans mon top 3, et donc ça m'a fait vraiment rire. Je me suis dit, punaise, elle est là.
Ça m'a fait trop plaisir.
C'est trop drôle.
Je m'y attendais archi pas, parce que vraiment, je me rends encore une fois pas compte que des gens m'écoutent, tu vois. Et du coup, aujourd'hui, je suis très contente de t'avoir, parce que c'est la deuxième fois que je vais faire ce concept sur mon podcast.
Okay.
C'est un format qui s'appelle « À petite ». En fait, je suis partie du constat que dans la vie, tout va très vite, même trop vite. On accomplit plein de choses, des choses dont on est très fiers et des choses dont on est aussi très déçus.
Mmh.
Et on retient souvent ce dont on est plus déçus que ce dont on est fiers. Et j'ai personnellement du mal à relativiser. Genre, je suis souvent triste, souvent en colère pour ce genre de choses. Et je me rends pas compte que... À l'intérieur de moi, il y a toujours cette petite Léa qui a 12 ans, qui a 6 ans, qui a 5 ans. Et en fait, qui serait tellement fière de voir grande Léa être accomplie, pas par rapport à mes réseaux, mais plus par rapport à genre, la personne que je suis et l'indépendance que j'ai aujourd'hui et ce que je fais, tu vois. Donc, c'est un concept lors duquel je vais te lire des cartes, on va sélectionner des questions et tu vas y répondre, mais en répondant à Petite Marie. Donc, ce podcast va s'appeler « À Petite Marie ». Et je vais te poser des questions et tu vas devoir te parler à toi-même quand
dur,
tu étais petite.
Super, merci de me mettre dans des situations tellement confortables comme ça. Vraiment, merci.
Tu sais qu'en plus, c'est un épisode que j'ai même pas fait pour moi-même encore.
Et Il faut que quelqu'un te le fasse. Tu peux pas te le faire à toi-même, je pense.
Non, t'as raison. Et je l'ai fait avec Adèle Castillon et c'était hyper intéressant. Parce que ça fait très longtemps qu'elle aussi, elle est sur les réseaux et qu'elle est devenue un peu jeune adulte, tu vois. Donc c'était trop cool. Et puis je pense que c'est cool aussi de montrer aux personnes qui nous écoutent et qui peut-être te suivent ou qui me suivent que c'est ok de pas trop savoir qui on est quand on est jeune et puis finalement de se rendre compte maintenant, à un moment donné, que waouh, ce qu'on a fait c'est fou quoi.
Mmh.
Donc
allons-y.
Voilà, as-tu hâte? Bienvenue sur Simple Caféine.
Surtout que je vois ton paquet de cartes, on va répondre à toutes tes questions.
Regarde, il y a la petite fleur de Simple Caféine derrière. Pour débuter, j'aimerais bien que tu te présentes à Petite Marie.
Oh, mais c'est vachement dur.
C'est pour te mettre un peu dans le bain.
Ah, mais alors, comment je parle?
Tu penses que quel toi petit aurait besoin de toi grande?
Non, c'est difficile.
Ouais.
C'est trop dur. En vrai, genre, tu me poses vraiment une colle, là. Tu me poses vraiment une colle. Non, en vrai, c'est trop compliqué.
Genre, au pire, comment est-ce que tu te présenterais, même sans penser à toi petite, mais à un petit enfant, tu vois?
Alors... Ici Marie, on a 28 ans, c'est bizarre on dit « on » mais c'est vrai. On a 28 ans maintenant et on habite en Belgique, alors que Dieu sait qu'il y a quelques temps on ne penserait pas qu'on partirait de Lyon. On est toujours sur internet, on en a fait notre métier, alors qu'on ne savait pas forcément ce qu'on voulait faire. Océanographe, ça n'a pas fonctionné. Ouais, très bizarre. Mais on poste des photos de nous quasiment tous les jours sur l'internet et tout le monde peut nous voir. Voilà, c'est un peu stressant pour toi qui ne voulais pas du tout être vue et pourtant... C'est ce que je fais.
Ah, c'est trop mimi.
Voilà.
Elle est trop bien ta présentation. Vraiment,
ouf.
Non, elle est très. C'est très, très bien.
Ça va faire plaisir.
Non, je te jure.
Ouais.
Raconte à Petite Marie ce qui te rend la plus heureuse aujourd'hui.
Ce qui me rend la plus heureuse aujourd'hui, c'est, je dirais, d'avoir su créer mon propre métier et d'avoir surmonté en fait toutes les peurs que j'avais. La peur de l'autre, la peur du rejet, le fait aussi d'avoir très très peur de pas rendre fiers mes parents. C'est vraiment un truc où je suis très fière aujourd'hui de me dire que voilà, ils sont quand même contents pour moi de ce que je fais, même si au début c'était pas, on va dire, c'était pas inné. Je suis très fière aussi d'avoir appris à dire non. C'est quelque chose que ouais, j'ai mis du temps à faire parce que j'ai toujours eu peur que les gens se sentent mal ou se vexent en fait, ou comprennent pas le fait que parfois j'ai pas forcément envie de voir du monde. Et ça, c'est quelque chose dont je suis très fière. Ça prend beaucoup de temps d'apprendre à dire non et c'est un très beau cadeau que je me suis fait.
C'est trop vrai. Ouais, c'est encore un peu work in progress chez moi.
C'est dur, hein, mais il y a encore des fois où j'y arrive pas. Parce que j'ai des espèces de conventions sociales qui font que pour mon boulot, en plus, qui est quand même un travail où on doit rencontrer du monde, on doit aller à des soirées, c'est pas évident de dire non, parce que tu sais aussi ce que ça implique dans ton, dans ta profession de dire non. Et c'est pour ça aussi, je pense que j'ai jamais voulu déménager à Paris, parce que je savais que si je venais ici, j'avais plus aucune excuse pour ne pas voir des gens. Et donc c'est pour ça que vivre loin d'ici, c'était mon excuse de dire bah en fait non, désolé, je vais pas prendre le train juste pour ce brunch, je vais pas prendre le train juste pour cette soirée, je vais pas prendre le train juste pour boire un verre. Et ça me sauve de beaucoup de moments inconfortables, parce que je déteste faire du social pour faire du social. Et ça me sauve dans beaucoup de cas. Et d'ailleurs, je le vois, j'ai pas mal d'amis influenceurs qui ont déménagé à Paris pour le boulot et qui aujourd'hui ont perdu leur joie de vivre. Ça me rend super triste. Et je sais pourquoi, parce que y a ce truc où tu peux pas dire non. Et donc tu vois des gens tout le temps, t'es épuisé, tu vois plus ta famille...
En fait, c'est ça, c'est même, je mettrais une petite mention en plus à ce que tu dis, c'est même pas juste le fait de voir des gens, parce qu'en soi, c'est, ça peut être chouette de voir des gens, mais c'est en fait dans le cadre du travail.
Dans le cadre du travail.
T'oublies de tout ton social, tu le mets dans le travail, toute ton énergie, tu le mets dans le travail, et en fait, t'en as même plus pour tes proches et pour toi-même autour, tu vois.
Surtout que pour la plupart d'entre eux, leurs proches sont pas forcément sur Paris, sont beaucoup dans d'autres villes, et donc les proches qu'ils ont à Paris sont des proches qu'ils connaissent via leur travail. Qui de collègues passent à potes ou de potes passent à collègues, et du coup c'est pas super sain, je trouve, comme cadre pour s'épanouir, en tout cas, et tu fais plus trop la différence ensuite entre ta vie et ton boulot. Et ça, c'est pas bien.
J'avais posé cette question là à la première personne avec qui j'avais bossé. Je lui avais dit, mais pourquoi je comprends pas pourquoi tous les créateurs de contenu ont l'air tristes et genre sont blasés et tout, et elle m'avait répondu, c'est Paris.
Bah oui, c'est,
et moi j'étais en mode, bah non, enfin tu rigoles ou quoi? Pas du tout. Maintenant, je comprends que oui. Et puis, c'est drôle que tu aies ce recul-là pour dire ça.
Ben, parce que je les ai vus changer, en fait.
Perdre leur joie de vivre, comme tu dis.
C'est trop triste.
Ouais. Maintenant, on va passer à la catégorie un peu côté perso.
Oh là, c'était déjà pas assez perso.
J'avoue que la première question, je pense qu'en fait, c'était la plus compliquée.
C'est dur de se la poser parce que je crois que ça demande vachement de recul et de travail sur soi pour être capable de dire des choses à son soi enfant. C'est un exercice d'ailleurs qu'on fait en psychologie. Et d'ailleurs, je crois que j'en ai parlé, enfin c'est pas que je crois, j'en ai parlé dans un de mes podcasts. Je vais te montrer un exercice que j'ai vu, mais tu vas trop rigoler. C'est un truc que je recommande. Dans un de mes fonds d'écran annexes, j'ai une photo de moi petite.
Arrête.
Ouais, ça c'est moi quand j'avais 5 ans.
Oh, t'es trop kiki.
Je suis mignonne, hein, avec ma petite frange.
Oui.
Et ben en fait, tu vas rire, pourtant, j'aime pas forcément les Kardashians. Et ben, j'ai vu un jour dans un épisode des Kardashians que Kendall Jenner, sa psy lui avait dit qu'il fallait qu'elle mette une photo d'elle petite sur son miroir le matin, et que quand elle avait envie de se dire des trucs méchants, elle regarde cette photo d'elle petite et qu'elle réalise qu'elle se dirait jamais des choses comme ça. Tu dirais jamais ça à un enfant de 5-6 ans, tu vois. Et ça m'a fait un électrochoc et je me suis dit, tiens, c'est vrai qu'on a tendance aujourd'hui en tant qu'adulte à se dire des choses hyper dures des fois, tu vois, tu te regardes le matin dans un miroir et tu te dis, oh, putain, aujourd'hui j'ai une gueule de merde, ou je vais passer de mauvaises journées, enfin on a tendance à se dire des choses assez tristes, assez négatives, sauf que si tu vois une photo de toi petit, mais même si tu vois un enfant de 5 ans, tu vas pas lui dire, ah t'as une sale gueule aujourd'hui, tu vois ce que je veux dire?
Non, oui.
Bah non, bien sûr que non. Et ben voilà, et du coup j'ai mis une photo de moi en fond d'écran, que je mets en fond d'écran annexe quand je me sens pas bien, et à chaque fois que j'ai des coups de mou ou quoi, je me dis toujours, non, tu dirais pas ça à la Marie de 5 ans, donc tu te tais.
Bah putain, c'est drôle.
C'est un exercice intéressant.
C'est vrai que c'est un super exercice.
Ouais, c'est un super exercice, et ça me vient des Kardashians, alors pourtant.
Qui l'aurait cru.
Effectivement.
Est-ce que tu te souviens un peu de la première fois où tu es tombée amoureuse, et qu'est-ce que tu dirais à petite sur cette situation?
Oh misère.
Sur ce...
Ah, tu ne resteras pas avec cette personne pour le reste de ta vie, ma petite Marie. Rentre-le-toi dans la tête. Tu vas vivre des très beaux moments et des souvenirs que tu garderas pour le reste de ta vie. Ça va t'apprendre beaucoup sur toi aussi et sur ton rapport avec les hommes et les garçons, parce que t'as pas eu beaucoup d'expérience jusque maintenant, et tu vas te rendre compte de ce que c'est que les sacrifices et les concessions, même si cette relation, tu l'as quand même eue assez jeune. Et tu vas découvrir aussi que tu ne peux pas sauver tout le monde. Et tu ne peux pas le sauver, lui. Vis ce que t'as à vivre, et puis surtout lâche l'affaire quand tu sens qu'il faut lâcher l'affaire, parce que ça sert à rien de se battre avec ce mec.
Mais tu sais que je t'imagine toi petite, ah ouais. Mais j'imagine aussi potentiellement toutes les personnes qui écoutent le podcast à qui tu pourrais faire un électrochoc en disant ça.
J'ai vraiment fait là, intentionnellement, la différence entre des amourettes de collège et ma vraie première relation. Et c'est vraiment de ça dont je parle parce que je crois que toutes nos premières relations, elles nous marquent. Et elles nous marquent au fer rouge, vraiment. Et c'était terrible parce que j'avais vraiment la sensation que... Enfin, c'était la première fois que je ressentais vraiment de l'amour. J'avais jamais ressenti ça pour quelqu'un. Ce truc de je pense à lui du matin au soir et ça a quand même duré 3 ans, tu vois.
C'est long, 3 ans quand t'es jeune.
Ouais, c'est long, 3 ans quand t'es jeune. Et surtout que moi, je me voyais plus sans. J'en étais arrivée à un stade de ma relation où je me disais, mais en fait, si je suis plus avec cette personne, avec qui je vais être, enfin,
c'est... Et qui je vais être moi
et
aussi.
Et qui je vais être moi, en fait. Et j'arrivais pas à déceler, en fait, la personne que je serais sans personne. Parce que j'ai toujours été en couple, moi. Faut le savoir. Hein. J'ai quasiment jamais été célibataire depuis ma première relation. Je suis restée célibataire en tout, je pense, 1 an et demi.
Est-ce que tu dirais que t'as construite qui tu es à travers tes relations ? C'est pas spécialement négatif, tu vois, parce que
je pense que à chaque relation, j'ai appris quelque chose de nouveau sur moi, pour sûr. Et là où j'ai le plus appris, c'est pendant l'année où j'ai été seule. Parce que je l'appelle comme ça, moi, je l'appelle la traversée du désert, cette période. Et j'ai eu le temps, en fait, de vraiment réfléchir à ce que j'aimais dans une relation, ce que j'aimais pas. Y a des gens qui mettent une vie à le savoir. Moi, en 1 an, ça a été très vif, mais parce que j'avais eu aussi l'occasion de vivre plein de relations. Donc du coup, je pense que c'est facile à dire quand t'as toujours été en couple, parce que t'as pu avoir un panel hyper large de ce que t'aimais et de ce que t'aimais pas chez quelqu'un. Mais ce qui m'a permis aussi, dans ma relation actuelle, de poser les bases et de surtout poser les choses directement sur ce que j'accepte, ce que j'accepte pas, ce que je suis capable de concéder aussi. Et l'inverse, et les trucs sur lesquels je ferais jamais l'impasse, quoi. Et en fait, je me suis surtout rendu compte que j'aimais être amoureuse. C'est vraiment... Je me vois pas comme quelqu'un de bien seule. Je suis très très heureuse d'être en couple, même s'il y a plein de côtés négatifs et tout. En fait, je me rends compte que ma vraie personnalité ne se montre que quand je suis avec quelqu'un.
C'est drôle.
Ouais, parce que tout simplement, ça me permet de faire ressortir le meilleur comme le pire. Mais tu vois, quand je suis toute seule, j'ai l'impression qu'il y a personne qui est capable de faire ressortir ça chez moi. Et du coup, c'est un peu comme si j'étais toujours anesthésiée. Moi, c'est vraiment comme ça que je le vois. Quand je suis célibataire, j'ai l'impression d'être anesthésiée. Parce qu'il n'y a personne qui vient allumer un peu le gaz dans mon corps en mode « Hey, vas-y, réveille-toi !» Ouais, c'est
putain,
ça.
Hein.
Mais okay. C'est ok, je sais qu'il y a des gens qui sont comme ça. Un jour, je me suis sentie très seule là-dedans. Je me suis dit « Mais c'est nul, de ne pas réussir à être bien seule, indépendante et tout. » Mais en fait, j'ai juste réalisé que c'était pas grave. Enfin, t'as le droit d'être mieux en couple, quoi. Parce qu'on voit toujours cette injonction de « Ouais, faut apprendre d'abord à être bien seule avant de se mettre en couple et tout. » Pas forcément. Je suis pas d'accord avec ça.
C'est drôle. Mmh. Ok.
Voilà.
Bah, c'est une bonne chose à savoir sur toi.
C'est bien parce qu'en fait, on fait 3 questions, mais on est déjà à 35 minutes de podcast, donc je pense qu'on va faire que quelques cartes, en fait. Parce qu'à chaque fois,
Et tu vas pas te semer comme ça de mes questions.
En fait, à chaque fois, je digresse. Je suis la reine de la digression.
C'est hyper intéressant. Au contraire, c'est cool de comprendre aussi. Est-ce que tu te souviens d'une embrouille avec tes parents et qu'est-ce que tu dirais à petite Marie ?
Je dirais que les embrouilles sont nécessaires. C'est normal de pas être toujours d'accord avec ses parents. Si t'as l'occasion d'encore plus t'embrouiller, fais-le. Parce qu'il y a plein de choses que tu vas réaliser plus tard, des choses que t'aurais aimé dire plus tôt et qui t'auraient valu, je pense, beaucoup de tranquillité par la suite. Parce que si tu les dis pas maintenant, il faudra bien que tu le dises un jour, mais il y a des moments plus propices pour ça. Et tu vas pas forcément les trouver tout de suite. Donc n'hésite pas à bien t'embrouiller avec tes parents et à bien leur dire ce que tu penses, parce que c'est hyper important.
J'aurais bien aimé avoir ce conseil, tiens.
Ouais. Moi, j'ai fait des années de thérapie, et je suis toujours en thérapie d'ailleurs, pour régler des choses que j'ai jamais osé dire à mes parents. Et même encore aujourd'hui que je leur ai pas dit. Parce que les conversations d'un enfant à un adulte sont plus faciles dans le sens où on peut leur reprocher des choses, parce qu'on peut leur reprocher la manière dont ils sont avec nous, parce qu'ils ont une figure d'autorité, parce que c'est des adultes et on est des enfants ou des ados. Quand on est 2 adultes, et là c'est le cas, tu vois, aujourd'hui je suis une adulte et que je dois avoir une conversation avec mes parents qui sont aussi des adultes, on est tellement sur un pied d'égalité que je trouve que c'est très difficile de repositionner tes parents dans leur place de parents, tu vois ce que je veux dire? Et donc du coup tu peux plus leur jeter à la gueule des trucs comme quand t'étais ado. Tu dois vraiment prendre des pincettes pour leur expliquer comment tu te sens. Enfin, je trouve que c'est hyper difficile, et moi maintenant j'ai plus de mal à parler avec mes parents aujourd'hui que j'en avais tu vois quand j'avais 16-17 ans, quoi. Donc j'ai l'impression que plus on vieillit, moins on ose dire les choses. Alors qu'on dit toujours l'inverse, on dit « tu verras » et tout, quoi. Quand tu seras plus grande, tu vas plus t'affirmer. Moi, je trouve que c'est faux. Ouais. J'aurais dû plus m'embrouiller.
On va passer... Bon, je l'ai appelé côté pro, mais... Et après, on passe sur... On rebascule dans un truc un peu plus deep. Attends, j'en ai enlevé une qui aurait pu être drôle en deux secondes. Est-ce que tu aurais des conseils capillaires à petite Marie? Les pires coupes que tu as eues.
Oh, en mode neuf. Ne fais pas de franges. Arrête, ça ne va pas t'aller. De toute façon, t'as un épi, lâche l'affaire.
Ben, j'espère qu'elle entendra ça, tu vois.
J'espère qu'elle l'entendra.
Est-ce que l'argent a déjà été un sujet dans ta vie et tu dirais quoi à petite Marie concernant l'argent? C'est un sujet qui est compliqué. Hein. Je sais pas ce que je donnerais moi comme conseil à même ouais, moi, mon petit sais. Cousin ou quoi.
C'est très très dur. Ben, l'argent, ça va te créer tellement de stress dans ta vie qu'il vaut vraiment mieux que tu te prépares parce que ça va être compliqué. C'est pas parce que t'es... parents te parlent d'argent que t'es obligé de prendre part à la conversation. Et protège-toi de ce que tu entends parce que tu es une enfant, ça ne te regarde pas.
Mmh. Ouais. C'est drôle. C'était quoi ton rapport à l'argent quand t'étais jeune?
Moi, je viens de parents divorcés. Et autant j'aime mes parents, autant c'est vrai que sur certains aspects, je pense qu'ils auraient pu faire les choses différemment. Mais bon, comme je dis toujours, ils sont parents pour la première fois aussi, donc on peut pas leur en vouloir. Mais j'ai souvent été au cœur de petites disputes concernant l'argent, de qui doit payer quoi, à qui c'est de payer la cantine, tu vois, ce genre de choses. Et par exemple, à l'école, moi je me souviens qu'on me donnait la facture de la cantine, parce que c'est comme ça à mon époque. Ils donnaient la facture aux gamins et les gamins devaient donner les factures aux parents, tu vois. C'était pas des trucs qui étaient directement
envoyés. Mais tu donnes à qui, du coup?
Bah, c'est bien ça le problème. C'est que je devais déjà, très jeune, avoir la responsabilité de donner une fois sur deux à mon père, une fois sur deux à ma mère. Sauf que ben, tu mets la responsabilité sur le dos d'une enfant de 8 ans, 6 ans, 8 ans, c'est difficile, tu vois. Et j'ai des souvenirs très vagues de moi qui donnais en gros l'enveloppe à la mauvaise personne au mauvais moment du mois et que en gros bah, c'était limite moi qui me faisais engueuler alors que c'était pas de ma faute, tu vois. Et que j'étais un peu le hibou. Mais je leur en veux pas parce que, tu vois, c'est pas facile. Honnêtement, c'est difficile. Je leur en ai jamais voulu parce que c'était un moment de notre vie qui était à tous difficile. Donc c'est pas grave, mais c'est vrai que je pense qu'il faut épargner les enfants au maximum, enfin en tout cas même les ados, des problèmes d'argent parce que par la suite, ça crée des problèmes aussi dans ta vie à toi. Et moi, même si j'en ai jamais manqué, j'ai toujours eu peur de pas avoir assez d'argent parce que j'avais l'impression qu'il fallait que j'en ai suffisamment pour que ça n'arrive pas, pour que ce genre de situation n'arrive jamais. Donc ouais, puis très vite à l'école, j'ai vu les gens qui avaient de l'argent et ceux qui en avaient moins. De par les vêtements qu'ils portaient, tu sais, il y avait vraiment ce truc de les filles dans la classe qui portaient des doudous de Montclair, qui avaient des sacs Vanessa Bruno, et moi j'avais pas ça, mais c'est pas grave, c'était pas mon style de toute façon, mais c'est-à-dire que très tôt, là en ce moment tu voyais la grande discussion autour de l'uniforme à l'école, et franchement sur certains aspects je trouve que c'est pas mal, parce que ça permet vraiment en fait de casser un peu les codes et justement de remettre tout le monde sur le même pied d'égalité, même si tu pourras toujours trouver des inégalités ailleurs, mais oui. Enfin, si un jour j'ai des enfants, j'espère qu'ils auront le moins de soucis à se faire avec ça, tu vois, qu'on n'en parle pas, ou juste qu'ils aient une notion de ce que c'est et de comment ça fonctionne, parce que je pense que c'est important d'être très terre à terre avec ça, mais pas de leur créer du souci. Parce que moi, j'en étais même arrivée au stade où, quand on arrivait à la caisse du supermarché, j'avais une boule au ventre quand j'allais entendre le prix, alors que c'était même pas moi qui allais payer, tu vois. En fait, c'est difficile parce que d'un côté, t'as envie de responsabiliser tes enfants, je pense, mais de l'autre, tu te rends pas forcément compte de ce que ça donnera sur eux plus tard. Après, il y a aucune personne qui grandit sans aucun, entre guillemets, trauma. Mm. Et donc, on a tous nos valises qu'on emporte avec nous tout le long de notre vie, mais c'est sûr que l'argent, je dirais que dans une société comme celle dans laquelle on vit aujourd'hui, prend tellement de place que c'est difficile de passer à travers les gouttes, quoi. Mais oui. Moi, j'espère que j'arriverai à donner, entre guillemets, un environnement sain à mes enfants en ce qui concerne l'argent. Qu'au moins, juste, ils comprennent, mais sans être terrifiés par ce truc-là. Mais bon, ça se trouve, j'y arriverai pas. Et...
Oui, c'est hyper compliqué. On ne sait voilà, pas comment on va réagir, de toute façon. Non. Raconte à petite Marie comment c'est de partir de chez soi.
Partir de chez tes parents, tu vas voir, tu vas adorer. C'est génial, tu vas pouvoir manger ce que tu veux, aux heures que tu veux. Faire la grasse mat tant que tu veux et faire ta vie, en fait, sans avoir besoin de demander l'approbation de 12 personnes avant d'ouvrir la bouche pour parler. Donc ça va être vraiment super, tu vas vraiment profiter et puis tu vas pouvoir te lancer à fond dans ce que t'aimes faire, les vidéos sur YouTube. Et ça c'est vraiment trop chouette. Bon, tu galéreras un peu sur quelques meubles à monter et t'appelleras ton père qui te dira « t'as voulu partir, débrouille-toi ». Mais il a raison parce que maintenant tu sais monter tous les meubles du monde, donc c'est bien.
C'est drôle, t'as été dans un cadre très, très carré.
Chez mon père, ouais. Chez ma mère, beaucoup moins. Mais chez mon père, ouais, c'était... On n'a rien sans rien. Et donc, si tu veux un truc, pas de problème. Par contre, il faut que tu te débrouilles. Débrouille-toi parce que c'est ta responsabilité, puis on sera pas toujours là. Et j'en ai beaucoup voulu au début, hein, à mon père. Au tout début, j'étais là, mais je comprends pas. Moi, mes copines, quand elles ont besoin d'aide, leur père, il est là pour les emmener à la gare, pour les emmener à l'aéroport, pour venir les chercher, pour aller faire des courses. Enfin, tu vois. Et moi, vraiment, bon, alors de par son métier, c'était compliqué qu'il soit tout le temps là. Puis il a deux autres enfants, donc. J'ai deux petits frères qui étaient plus en bas âge, donc forcément, il fallait qu'ils soient plus disponibles pour eux que pour moi, donc c'était normal. Mais c'est vrai que des fois, j'aurais aimé avoir un peu plus de soutien, tu vois, dans ma vie quotidienne. Ils ont été là à des moments où ils ont senti que de toute façon, je pouvais pas le faire seule. Mais pour les petits services à rendre et tout, c'était un peu « débrouille-toi ». Mais c'est pas grave, mais c'est vrai que des fois, tu te dis...
Sur le moment même, je pense, en tant que jeune et quand t'es surtout dans une période d'adolescence ou d'enfance... Ouais, t'as surtout besoin, t'aimerais bien être dans le meilleur confort. Maintenant, t'as le recul pour dire oui. Ça t'a appris beaucoup de choses, mais ça, j'avoue que
ouais,
ça doit être
compliqué.
Sur le moment,
je comprenais pas. Mais bon, maintenant, je comprends. Donc,
Tu ferais la même chose avec tes enfants ?
Ouais, je pense.
T'as vu, c'est drôle parce que moi, pareil. Il y a plein de choses où je me dis,
ouais.
Genre, mes parents, ils ont toujours énormément bossé, à tel point qu'ils terminaient de bosser à... J'avais de la chance, ils étaient à Bruxelles, mais... À genre 20h, ils allaient me chercher chez ma prof de maternelle qui me gardait jusqu'à mes 12 ans, c'était comme ça. Et après, genre, je les attendais dans des cafés et tout, genre, et je faisais mes devoirs en les attendant, je restais à la garderie, etc. Bref, ils ont très fort beaucoup bossé. Et moi, du coup, j'étais là en mode, jamais je veux faire un métier comme eux parce qu'ils bossent trop et tout, mais c'est de la passion.
Ouais, c'est
ils
ça.
Travaillent en team en plus, donc c'est de la passion. Et maintenant, je fais pareil, je bosse plus qu'eux et je suis passionnée et je les vois plus. Tu vois, c'est l'inverse.
Ouais, mais moi je pense qu'il y a des valeurs comme ça, celles qui t'ont vraiment formé, t'auras envie de les donner. Et moi, celle-ci, je le ferai parce que je veux pas donner trop d'exemples parce que j'ai peur que ça me retombe dessus, mais je connais tellement de gens en fait qui ont eu leurs parents mais tellement présents dans leur vie jusqu'à maintenant en fait, même encore aujourd'hui, ils ont le même âge que moi et qui dépendent complètement de leurs parents. Alors bien, quand bien même qu'ils vivent seuls, tu vois, qu'ils ont leur salaire, leur boulot, mais qui quand même dépendent énormément de leurs parents. Et je les vois dans leur vie quotidienne galérer sur des bêtises parce que quand ils ont un problème, ils appellent leurs parents, même à 28 piges, quoi. Et moi, je suis là, mais tu veux pas apprendre à te débrouiller seule ?
Je crois que c'est moi, Maryse. Si je dois être honnête avec toi et tout.
Ah ben voilà.
Moi, enfin, peut-être pas à 100%, mais j'avoue que... Non, mais... Ou en tout cas, je dépends beaucoup de l'avis de mes parents. Et ça, faut que je m'en détache.
Ah oui, de l'avis de tes parents, ouais.
Ouais. Si jamais ils me disent pas qu'ils sont fiers de moi, j'ai un problème avec ça. Oui. Si jamais j'ai pas leur approbation, c'est ça. Et il faut que je m'en détache.
Mais ça, c'est différent. Là, tu vois, c'est un côté. Ça, je peux comprendre. Moi aussi, j'ai besoin de l'aval de mes parents. Je leur demanderai toujours conseil. Tu vois, pour moi, c'est important parce qu'ils ont plus d'expérience que moi dans la vie. Mais par contre, si c'est pour choisir en gros quelle lessive je dois utiliser, je vais pas les appeler. Tu vois.
C'est vrai qu'à 28 ans, peut-être que.
Voilà. Si jamais j'ai besoin d'aller faire des courses qui sont un peu loin, ou si jamais genre j'ai besoin qu'on aille m'emmener à l'aéroport, je vais pas appeler mes parents. Bon, maintenant de toute façon, je peux plus, j'habite à Bruxelles. Mais enfin, tu vois, je demanderai jamais des trucs comme ça à mes parents. Je me débrouille.
Pire. Non, mais t'as raison. C'est différent. On apprend tous des choses différentes dans la vie.
Exactement.
Ah oui, et donc du coup, de Lyon pour Bruxelles, qu'est-ce que tu dirais à petite Marie ?
Ben, que t'as toujours voulu vivre ailleurs, tu le savais depuis le départ. Bon alors, c'est pas l'Angleterre, malheureusement, parce que depuis, il y a un truc qui s'appelle le Brexit, et du coup, tu peux plus partir comme tu veux, sinon tu serais déjà partie là-bas. Mais tu vas aller un peu plus près, en Belgique, et même si c'est un pays que tu crois être vraiment comme la France, tu vas vite te rendre compte que c'est pas forcément le cas. Mais comme t'aimes la pluie, tu verras, ça va bien se passer.
T'aimes la pluie ?
J'adore la pluie.
Ah ouais ? T'es un peu une psychopathe finalement. Ben,
ouais, alors je me définirais pas comme ça, mais non, mais j'aime bien les gloomy weather. Wow. J'aime bien ça. Je sais pas pourquoi.
T'avais aimé Montréal quand t'avais été ?
Alors, j'ai pas aimé Montréal, mais parce que j'y suis allée, je pense, à la mauvaise période. On y est allé En fait, on a fait un mois à Toronto et on a fait un mois à Montréal. Et on est arrivé à Montréal au mois de novembre. Mmh. Et c'est vraiment le pire mois parce que, en fait, t'as plus les arbres trop beaux, c'est plus l'automne. Il fait méga froid et il fait que pleuvoir, mais pas vraiment neiger. Il fait gris, mais genre horrible. Mais en fait, c'est pas le gloomy weather que j'aime bien.
Ah ouais.
C'est le truc où t'as une espèce de déprime et vraiment, c'est le mauvais mois. Et en fait, j'en ai parlé à plein de gens qui avaient fait leurs études à Montréal, qui ont vécu là-bas ou alors qui vivent encore là-bas. Et ils m'ont tous dit, c'est le pire mois pour aller à Montréal, Marie.
C'est le mauvais entre-deux, voilà, en fait. Parce qu'en plus, ça. À Montréal, les saisons sont tellement marquées normalement.
Exactement.
Que c'est génial. L'hiver, l'automne, l'été, le printemps, tout est génial. Sauf quand t'es dans un mauvais entre-deux, ouais. Genre.
Du coup, j'ai super envie d'y retourner, mais en été, par exemple, ou 100% en hiver, pour vraiment avoir le vrai, tu vois.
En été, je pense que toi, t'aimes les festivals. Hein.
J'adore. Ouais, je sais, tout le monde m'a dit d'aller à Montréal l'été pour les festivals.
Purée.
Voilà. On ira ensemble.
Oui, on ira voir John à Pâche.
Allez, hop, bah voilà.
Tu veux en choisir une, tu veux en piocher une.
Voilà.
Wow. Raconte à petite Marie pourquoi il faut faire attention avec la drogue et l'alcool. Et c'est pas moi, hein. C'est toi. Hein.
Alors, la drogue, c'est pas trop ton truc. T'en as assez peur, donc continue à en avoir peur parce que globalement, les seules fois où tu vas essayer des trucs, ça va pas trop te plaire. Donc lâche l'affaire. Et l'alcool, c'est difficile parce que tu verras que tu vas avoir vraiment la sensation d'être cool quand tu vas boire une bière à la fin de ta journée avec tes potes au bar juste après le lycée. Sauf que tu vas le faire tous les jours, pendant 2 ans, toute ta première et toute ta terminale, et ça, c'est pas ouf. Déjà de une, parce que tu vas vraiment prendre du poids. Arrête de croire que c'est juste de la boisson normale, c'est pas de l'eau. L'alcool, c'est pas de l'eau. Et puis c'est surtout que tu vas apprendre, enfin en tout cas croire, que tu peux pas passer une soirée fun sans boire de l'alcool. Et ça, ça va te suivre des années. Donc... essaye de ralentir et puis de pas vouloir faire comme tout le monde parce que t'as le droit de dire non et c'est cool aussi de pas boire. Et arrête de croire que les gens qui boivent pas sont pas cool parce que c'est ce que tu penses et faut que t'arrêtes de penser ça. Et voilà, ça c'est ce que je dirais à moi quand j'avais 16-17 ans. Parce que spoiler alerte, j'ai pas bu ma première bière à 18 ans, évidemment.
Wow. Purée.
Ouais, t'as vu ça. Une thug ici. Hein.
Raconte à petite Marie comment c'est que de devenir connue.
Je pense que c'est quelque chose que t'idéalises beaucoup parce que tu regardes Laurie à la télé et que tu vas à ses concerts et que t'es archi fan et tu t'es déjà posé la question qu'est-ce que ça ferait d'avoir tous ces gens qui crient ton nom. Spoiler alert, bizarre, ça fait un peu peur et tu comprends pas trop pourquoi ça t'arrive. Tu vas avoir des moments trop chouettes comme des moments hyper difficiles parce que avec chaque avantage de la vie vient son inconvénient. Tu vas plusieurs fois te dire que t'aurais préféré pas être connue du tout parce que ça va t'enlever une partie de ta joie de vivre malgré tout et qu'il y a des gens qui sont faits pour être connus et des gens qui sont pas faits pour être connus et toi t'es un peu entre les deux. Donc voilà.
C'est vrai.
Ouais. C'est...
J'avais jamais pensé à ça comme ça.
De quoi que tu peux être les deux ou que...
Ouais.
Bah en fait, disons que moi je suis... J'ai découvert ce terme il n'y a pas très longtemps. Est-ce que tu connais le mot ambiverti ? Les ambivertis, c'est des gens qui sont à la fois extravertis et à la fois introvertis. C'est des gens qui sont super bien dans leur confort, qui adorent être tout seuls, qui aiment bien être vraiment dans leur cocon et pas voir des gens pendant des semaines, voire même parler à personne. Et t'as les extravertis, du coup, qui sont tout l'opposé, qui adorent être entourés, etc., etc., qui aiment bien sortir, voir du monde. Et puis t'as les deux. T'as les gens qui sont hyper extravertis quand ils sont en société et qui derrière en fait vont aussi adorer passer des heures chez eux et être dans leur cocon sans parler à personne pendant une semaine. Et ça s'appelle un ambiverti. Et moi, j'ai découvert que j'étais une ambivertie. C'est-à-dire que j'ai besoin d'être seule. Fondamentalement, j'aime vraiment ma tranquillité, ma solitude. J'ai vraiment besoin de ça. Mais à côté de ça, tu me lâches en société avec 12 000 personnes que je connais. Tu peux être sûre et certaine que je suis pas rentrée avant 4h du mat dans la soirée. C'est sûr, parce que je suis vraiment comme ça. J'ai ce côté où j'ai les deux. Best of both worlds, comme Miley Cyrus.
Mais c'est drôle.
Ouais, c'est ce qu'on appelle un ambiverti. Et donc, je le vois vraiment comme ça pour la célébrité. Il y a des moments où, vraiment, quand je faisais des meet-up ou des signatures de livres et que j'avais 5000 personnes qui faisaient la queue pour pour que je signe leur livre, j'étais hyper dans mon élément. J'étais super bien, j'étais à l'aise, j'étais contente de voir les gens. J'avais ce côté où j'étais tellement heureuse, en fait, de me dire, punaise, c'est tous ces gens que je... Voilà, avec qui je partage un peu de mon quotidien. Enfin, je sais pas, j'avais l'impression de les aider d'une certaine manière. Enfin, voilà. Et à côté de ça, le lendemain, quand on me reconnaissait à la gare et qu'on me suivait en courant, j'arrivais même pas à ouvrir la bouche tellement j'étais terrifiée, tu vois. Alors que la veille, je venais de voir 5000 personnes. Et j'ai vraiment ce côté, des fois, où... Je pense que tu peux pas être toujours au top. C'est impossible. Et tu peux pas... Donner et jamais en fait prendre le temps de récupérer. Tu peux pas donner ce que t'as pas. Et à un moment donné, quand t'es une coquille vide, tu peux plus faire semblant d'inventer des choses. C'est pas possible, tu vois. Une fois que la carafe est vide, meuf, elle trouve des...
j'ai trop une imagination, Marie. Mais je suis en train d'imaginer une coquille vide avec des trucs à l'intérieur. Voilà.
Bah, tu vois, une fois que la carafe est vide, tu dois la remplir. C'est comme ça, tu peux pas donner. Et je le vois vraiment comme ça avec la célébrité. C'est pour ça que j'ai beaucoup de mal avec les gens qui te suivent jusque chez toi, qui t'interpellent dans la rue sans te demander de son autorisation, qui te touchent le bras, qui t'attrapent, qui crient ton nom comme ça. Un jour, je suis rentrée dans un Starbucks. Oups, sorry.
Un jour,
Un jour, je suis rentrée dans un Starbucks et il était 6h du matin, j'allais prendre mon train et il y a un gars qui servait chez Starbucks. Il m'a vu et fait, il a hurlé, il était 6h du matin, 6h30. Il me fait, oh, enjoy! Et ben, j'ai fait demi-tour.
Oh, merde.
Je lui ai même pas dit bonjour ou quoi, j'étais terrifiée. J'ai eu ce truc où ça venait en fait rentrer dans ma bulle sans même que j'ai eu le temps de m'y préparer. Et en fait, j'étais tellement pas prête à me confronter à ça que j'ai tourné les talons et je suis partie. Et je te jure, j'ai fait limite une mini crise d'angoisse. J'étais là, putain, mais ça va pas. Et en fait, du recul, je me dis, le mec, ça se trouve, il a juste pas... Tu vois, il était...
Il a pas su se contrôler
mais... et il s'est pas rendu compte. Et c'était sûrement pas méchant. Mais en fait, sur le coup, j'étais en mode, non, c'est too much, j'arrive pas. Hop, et j'ai vraiment fait... vraiment, je suis partie comme une gamine en mode, je peux pas.
Mais c'est vrai que c'est spécial parce que quand tu deviens connu, t'es un peu en représentation de travail tout au long de la journée. Mais c'est très bizarre.
Ben, c'est surtout...
C'est pas tu mets une perruque et tu mets un déguisement et t'es de... Tu vois, c'est tout le temps.
Comme si t'avais pas vraiment le droit d'avoir des moments down ou des moments où t'avais pas nécessairement envie de parler aux gens. Parce que ça m'est déjà arrivé de me faire reconnaître en lendemain de soirée. Tu te doutes bien qu'il y avait des jours où j'étais là, bon...
Mais
là,
quand t'as la nausée, quand t'es...
je suis vraiment pas très bien, là, ça se voit, je pense. Et puis alors après, tu vois sur les réseaux, ouais, j'ai croisé Enjoy Phoenix à la sortie du métro, elle était pas cool et tout, je suis là, bah, en fait, tu m'as demandé une photo, j'ai fait la photo avec toi, et enfin, désolée de pas être toujours hyper pétillante, hyper marrante, hyper joviale et tout, c'est juste parce que c'est moi, je vais pas...
Et puis t'étais peut-être pas aussi émotionnellement disponible à ce moment-là.
Oui, mais ça, je pense que c'est
dans
quelque chose.
Dans ta tête.
Les gens, tu vois, ils s'attendent en fait à avoir ce qu'ils ont l'habitude de voir. Et non, parce que, bah oui, on est des êtres humains et qu'on peut pas toujours être à 100%. Et tu n'irais pas faire la réflexion à ta boulangère, vous êtes pas très sympa aujourd'hui. Tu vois ce que je veux dire? Ben non, parce qu'elle a peut-être des jours
si,
avec.
Il y a quand même des gens qui mettent des avis.
Non, oui, mais non, mais...
je rigole.
Non, mais on s'entend. Mais ce que je veux dire, c'est que les gens font pas la différence parce qu'ils nous voient sur les réseaux sociaux tout le temps. Et dans leur vie du quotidien, ils vont pas dire à la caissière, bah, vous pourriez sourire quand même. Bon, ça arrive. T'as des gens qui le font. Mais ça se fait pas. Parce que ça se trouve, tu le sais pas, mais ce matin, son mec l'a plaqué. Ou alors, ce matin, elle a pris une mauvaise nouvelle. Fin...
Ou alors, elle a raté la moitié de ses petits pains au chocolat et elle va pas pouvoir faire sa journée comme elle le pensait.
Exactement.
Non, mais c'est hyper intéressant, écoute. J'aime bien parler de ces sujets-là parce que parfois, j'étais en face de moi et je m'imagine à ta place et je sais pas comment je réagirais.
Tu peux pas savoir.
Ben, c'est ça, tu peux pas savoir.
Et on peut pas, moi non plus, je savais pas. Non. Jusqu'à être confrontée à cette situation, comme je le dis depuis des années, il n'y a pas d'école qui te prépare à ça. T'as pas une formation, c'est pas, tu passes pas une licence célébrité. Un master en communication.
Tu déconnes ou quoi? J'ai vu une formation sur Instagram qui était vendue à 500
euros.
Oui,
comment la fameuse. Non, mais je veux dire, ça n'existe pas. Il y a pas de. À moins que tu sois une star Disney comme Miley Cyrus, où tu te retrouves effectivement dans ce monde-là. Et là, effectivement, on te donne des codes. Mais quand t'es comme moi, autodidacte, tu penses pas qu'un jour tu vas devenir connu. Tu t'apprends sur le tas, en fait. Tu peux pas savoir.
Raconte à petite Marie pourquoi est-ce que elle a bien fait de s'accrocher et de continuer à avancer.
Et la vie va t'offrir des opportunités dont tu n'as pas vraiment connaissance, que ce soit professionnel ou personnel, que tu manquerais si tu ne t'accrochais pas. Par contre, c'est aussi bien des fois de pas s'accrocher. parce que tu verras qu'il y a des choses qui n'en valent pas vraiment la peine. Donc, lâche pas l'affaire. Lâche rien.
Est-ce que ton plus grand accomplissement, c'est ta maison ?
Non.
C'est quoi ? Non, parce que je sais que... en fait, tu bouges tellement que je me dis d'avoir un chez-toi et tout, genre... Est-ce que c'est pas un truc qui est confortable ?
C'était mon rêve d'avoir une maison. Ça l'a été pendant très longtemps parce que j'ai toujours grandi en appartement. Et j'avais toujours des copines qui vivaient dans des maisons avec des jardins. Et j'étais là, oh, ça doit être trop bien d'avoir ça et tout. Et très jeune, je me suis dit, bah tu vois, ouais, moi, mon rêve, ce serait d'acheter une maison et d'avoir un... ouais, vraiment une maison, quoi. Et c'est ce que j'ai fait. Il y a un an, j'ai acheté une maison qu'on a retapée avec mon mec. Et je suis très très contente de l'avoir achetée. Mais tu sais, c'est un petit peu comme les choses que tu... Tu sais, c'est un petit peu genre, tu le veux. Puis quand tu l'as, ok, bon, voilà, je l'ai. Et maintenant, on fait quoi? Et ben en fait, c'est un peu ça, tu vois. C'est trop chouette. Mais est-ce que c'est genre l'accomplissement de ma vie? Non. Déjà parce que j'ai que 28 ans. Donc j'ai encore le temps de voir venir. Ça se trouve, il y aura d'autres choses... d'autres choses qui vont arriver, mais j'ai plein d'accomplissements, tu vois. J'estime par contre, en réalité, que ma carrière est un très bel accomplissement, pour sûr. Ça, je le regrette pas du tout, et je me dis, enfin, j'ai une chance de dingue à 28 ans d'avoir déjà vécu tout ce que j'ai vécu avec mon travail, grâce à mon travail. C'est sûrement plus que la moyenne des gens, et sûrement ce que des gens ne pourront jamais faire dans toute leur vie entière. Et ça, j'en suis vraiment pleinement consciente, et je pense que c'est pour ça aussi que je continue à m'arracher dans mon travail parce que je sais que y a des gens qui, même s'ils s'arrachent à fond, ils auront jamais tout ça. Et on a beaucoup tendance aujourd'hui avec les réseaux, notamment avec les gens qui se lancent sur TikTok très jeunes, tu vois, qui voient un business et c'est top, hein, franchement. Mais on a tendance à prendre les choses pour acquis, en mode c'est super facile, c'est trop bien, j'ai toutes ces opportunités, mais sans réaliser la chance qu'on a. Et c'est normal de pas réaliser la chance qu'on a parce qu'en fait, pour la plupart, on n'a pas forcément connu la galère. Et je pense que sans l'avoir connu, la galère, tu peux savoir ce que c'est. Et tu peux te rendre compte que globalement, enfin, on vit des expériences de ouf et qu'il faut continuer à prouver qu'on les mérite aussi. Et donc, il faut pas se reposer sur ses acquis, tu vois.
Mais c'est vrai que souvent, j'ai l'impression que quand j'ai entendu des podcasts de toi ou des discours que tu avais par rapport à ça, c'est que tu mets beaucoup en avant le mérite.
Ouais.
Et j'ai l'impression que ça va de pair avec l'exigence que tu mets dans ton travail. Parce que comme tu dis, tu continues de fournir toujours tout autant, alors qu'à un moment donné, comme des carrières d'artiste, tu vois, tu pourrais t'arrêter.
Ouais.
Ou arrêter de faire toujours vouloir un next step. Comme on parlait, ta marque,
ouais.
T'as posé un label bio dessus. Ouais. Potentiellement, ça aurait très bien fonctionné sans, tu vois, genre...
Bah, j'ai un côté perfectionniste que j'affectionne beaucoup et que je voudrais jamais lâcher. Tu vois, il y a des gens qui disent « Ah, c'est pas cool d'être perfectionniste ». Bon, moi, je trouve que c'est une qualité incroyable parce que ça te pousse dans tes retranchements, même si c'est parfois pas facile. C'est comme j'ai été élevée, tu vois, comme ça. Moi, mon père, il m'a toujours dit « Si tu veux un truc, tu vas travailler pour l'avoir ». Et je pense que ça, pour le coup, c'est vrai. Et c'est quelque chose que j'ai vraiment gardé. Et je trouve que dans la vie, on n'a rien sans rien. J'en suis persuadée parce que même sans parler de l'aspect matériel, je trouve que ça te donne une espèce d'abnégation et de te dire bah, il faut y aller dans la vie quoi. Tu peux pas attendre que ça passe. On n'a qu'une seule vie, c'est super bateau de dire ça, j'en ai marre de le dire, mais c'est vrai. C'est qu'à un moment donné, si tu veux vraiment quelque chose, donne-toi les moyens. On les a tous, on a tous les ressources. Hein. On est tous, alors tous à 90%, nés pareil avec les mêmes habiletés. De faire des choses, de monter des projets, de se donner les moyens, de, tu vois, de se motiver. Il suffit juste de, à un moment donné, trouver les ressources, tu vois.
Même si ça amène pas les personnes à qui tu dis ça au même stade que toi,
non.
Ça va vous ouvrir des portes parce que votre détermination va vous aider à casser des portes, à ouvrir des portes que vous aurez potentiellement genre pas espéré ou même pas imaginé un jour pouvoir dépasser. Ça va vous emmener dans d'autres horizons mais qui sont genre tout aussi bien et ça va genre créer votre propre carrière ou votre propre histoire. Et c'est cette détermination-là, cette envie qui fait que ça fonctionne aussi dans certaines choses.
Mais tu vois, au-delà de l'aspect carrière, moi je pense que c'est important aussi de... Enfin, moi je suis très dans le développement personnel et genre, un des meilleurs investissements que j'ai pu faire sur moi, c'est de voir une psy. Et j'ai vaguement... Enfin, j'ai très très longtemps hésité avant d'en voir une parce que je me disais non, j'en ai pas besoin et tout. Puis de toute façon, je suis bien comme ça. Enfin, tu vois, je me remettais pas du tout en question. Sans prendre conscience que voir une psy, ça allait vraiment en fait changer aussi toute ma manière de voir la vie. Et de ça découle plein de trucs super positifs, mais je sais pas comment t'expliquer. Je trouve que c'est important, tant dans l'aspect professionnel que dans l'aspect personnel, de se donner les moyens d'aller mieux. Et tu vois, il y a plein de gens comme ça qui ont des peurs, qui ont des choses voilà, qu'ils osent pas dire, des mal-être et tout, mais qui ne vont pas voir de psy parce qu'ils se disent « non ». Alors qu'en fait, c'est aussi ça, se donner les moyens et se sortir de la merde, entre guillemets, c'est de se dire, bon, là, en fait, reconnaître que t'as besoin d'aide et que t'as besoin de te faire aider, tu vois. Et ça, je trouve que c'est vraiment important. Enfin, moi, je le recommande vraiment à tout le monde. Surtout qu'en plus, il y a plein de moyens maintenant d'aller voir des psys gratuitement et tout. Il y a plein de choses qui sont mises en place, des aides, des numéros qu'on peut appeler. Il y a plein de manières, en fait, de se faire aider. Donc, il n'y a plus d'excuses, quoi.
Non, c'est vrai.
Tu veux le numéro de ma psy, Léa ?
Ouais, je veux bien. Non, mais ça, on en a parlé. Enfin, j'en ai parlé avec plusieurs personnes. Il faut que j'aimerais beaucoup aller voir quelqu'un. Et bon, attends, je ne l'ai pas encore placé dans ce podcast aussi. C'est un peu un running gag. J'ai étudié en neurosciences cognitives. Donc, je sais un peu tout ce qui est santé mentale et tout.
C'est vraiment les coordonnées les moins bien chaussées. Hein. Ça ?
Ça, c'est tellement un... Non, mais c'est important. C'est un self-care de ouf, genre.
Si j'ai un conseil à donner, parce qu'il y a plein de gens qui disent j'ai pas besoin. C'est très simple. Pour savoir si t'as besoin d'aller voir quelqu'un, c'est quand quelqu'un te fait remarquer ou que tu réalises que t'as un pattern qui est toujours le même depuis des années et que tu ne sais pas pourquoi il est là.
Mmh.
Donc, typiquement, si tu t'embrouilles toujours à cause du même type de sujet, genre par exemple, t'es toujours jaloux de quelqu'un, t'es toujours jaloux d'une amitié, tu te rends compte que ça tourne toujours autour de ça, par exemple, et que c'est un vrai problème, va voir un psy. Parce que tu vas te rendre compte que c'est, de une, tu peux savoir pourquoi, d'où ça vient, et de deux, ça se règle.
Mmh.
Ça se règle. Et donc, c'est hyper important, surtout quand t'es dans une relation aussi, de prendre conscience des... petites choses comme ça du quotidien que tu vois chez quelqu'un constamment, tu te dis tiens c'est vraiment bizarre parce que tu réagis toujours comme ça, tu me dis, tu vois c'est toujours les mêmes types de conversations, à chaque fois qu'on se dispute t'as cette espèce de truc d'autodéfense, tu me dis toujours la même chose et tout, et ben en allant consulter tu peux savoir d'où ça vient et tu peux te rendre compte que ça se règle, et en fait en réglant ça bah t'améliores aussi ta relation avec les autres parce que tu te rends compte que c'est juste un petit truc qu'il fallait recalibrer et c'est tout. C'est pas si difficile.
Ouais.
Si t'es la meuf qui pleure chaque semaine avec sa psy pendant une heure, c'est pas agréable. Mais tout ce que tu vas gagner derrière en confort de vie et en confort de santé mentale avec toi-même et avec les autres, c'est juste incroyable, quoi. Meilleur investissement que j'ai jamais fait.
J'aimerais bien aller voir quelqu'un parce que j'ai une mémoire très courte, je trouve.
Mmh.
Comme si, tu vois, enfin, j'oublie tout. Genre j'oublie tout, mais même des discussions que je peux avoir avec les gens, des souvenirs, tu vois, je pourrais pas te redire des voyages et tout. Et je me demande si ça a pas, franchement je dérive, je vais pas mettre ça dans le podcast, mais ça a pas un rapport avec le fait de vouloir être, d'avoir toujours eu envie d'être l'enfant parfait vis-à-vis de mes parents.
Mmh.
Et de, si c'est pas parfait, je le veux pas, je veux pas le savoir. Et j'ai
tu devrais, tu devrais grave aller voir une
tu vois, parce jure. Que j'ai genre en t'as cours et tout, tu me demandes d'apprendre un texte pour le redire sur scène ou pour le redire devant 3 personnes. Si je, comme je sais que je ne vais pas être parfaite, je ne le fais pas. Bah écoute, en vrai de vrai, on a abordé plein de trucs. Tu sais quoi ? Si tu devais engueuler petite Marie pour des choix que tu as faits, quels seraient-ils ?
Arrête de donner ta confiance à tout le monde. Mmh. Tout le monde n'est pas tout beau, tout gentil. Et ce n'est pas parce que tu donnes ta confiance et tu es gentil avec les gens... et sincère dans tes sentiments qu'ils le seront forcément en retour. Tu apprendras assez rapidement que l'humain n'est pas malheureusement toujours très sympathique et par nature assez égoïste. Et c'est pas grave, mais c'est bien de le savoir pour éviter des désillusions et des grosses déceptions amicales, amoureuses. Voilà, ne pas faire, pas faire aussi vite confiance aux gens. Parce que ouais... Toute ma vie, j'ai eu tendance, tu vois, à me dire si je les mets dans la confidence, si je m'ouvre à eux, si je leur dis des choses qui sont importantes pour moi ou même des histoires qui me sont arrivées, qui m'ont forgée. Peut-être que, tu vois, ils vont avoir de l'empathie ou alors ils vont comprendre d'où je viens et du coup avoir cette espèce de sympathie avec moi. Mais en fait, 80% du temps, ils s'en sont servis contre moi. Parce que le savoir, c'est le pouvoir, je le dis tout le temps. Et quand tu donnes trop de savoir à quelqu'un sur toi, ça lui donne le pouvoir de te faire du mal s'il en a envie. Et donc, tu peux pas tout dire à des gens que tu connais pas tellement. Ou... Enfin, parce que tu ne sais pas, en fait. Déjà, tu sais pas s'ils vont le garder pour eux. Et tu sais pas si un jour, ils vont pas s'en resservir contre toi. Et moi, c'est ce qui s'est passé. C'est un défaut, je dirais. De trop vite donner sa confiance pour le coup. Je dis pas souvent le mot défaut, j'emploie pas trop ce terme défaut, qualité et tout parce que pour moi il y a de l'ambivalence dans les deux, enfin, mais ça pour le coup je trouve que c'est quand même un défaut. parce que on sait jamais, surtout maintenant, tu sais jamais sur qui tu peux tomber.
Et j'ai l'impression qu'il y a une partie de ta vie où tu t'étais vraiment plus renfermée et où t'avais genre arrêté de parler aux gens. J'en ai aucune idée parce que je te connais pas depuis longtemps.
Ouais, ouais.
Est-ce que t'es pas en train de nouveau de te réouvrir aux gens? Genre là, par notre rencontre, tu vois.
Si, si, depuis 2 ans, je dirais que ça commence à aller un peu mieux. Je jette trop de fleurs, mais c'est aussi grâce à ma psy. Parce que j'ai pu mettre des mots aussi sur ce qui m'avait peiné et sur le fait que il y a aussi ce gros côté où moi, j'aime pas trop l'injustice, tu vois, j'ai un vrai problème avec ça. J'aime pas les hypocrites, j'aime pas les gens qui mentent. Et donc, j'arrivais à un stade dans mon métier où j'avais la sensation d'être constamment entourée de gens qui me ressemblaient pas et qui étaient prêts à tout pour arriver à leur fin. Et ça m'a un peu traumatisée. Et donc, du coup, je m'étais dit, puisque c'est comme ça, honnêtement, je préfère être toute seule parce que j'ai pas envie de faire partie de cet écosystème. Et puis là, il y a 2 ans, je me suis rendu compte que tu pouvais en faire partie tant que tu donnais pas. Donc tu peux très bien faire partie de cet écosystème dès lors que tu sais ce que tu peux dire et tu sais ce que tu peux pas dire. Tu sais ce que tu peux partager ou pas et comment te positionner avec les gens. Mais ça, c'est une vraie question de maturité, je dirais. Parce que on n'a pas tous cette maturité dès le départ de se dire, bon, jusqu'où je peux aller dans la conversation? Qu'est-ce que je peux dire? Quel affect je peux mettre? Moi, j'avais tendance à mettre de l'affect dans tout. Et donc quand quelqu'un me trahissait, mais je le prenais mal, mais t'as pas idée, enfin, ça me brisait. Parce que dans ma tête, j'étais en mode, ben non, mais attends, je lui ai dit tout ça, enfin, comment c'est possible, tu vois? Et ça me brisait. Alors que maintenant, je suis en mode, toi, je vais rien te dire, parce que je sais que t'auras mis l'occasion de me la mettre à l'envers et que tu vas le faire si jamais je te le dis, donc je te dis pas.
La limite est mince entre, et maintenant, en vrai, on la connaît de plus en plus, mais entre collègues et potes, dans un métier où ton lifestyle, dans un style de vie où ton lifestyle est ton métier.
Ouais. Non, c'est très, très difficile. Et encore une fois, c'est pour ça que j'habite pas ici. C'est pour ça que j'habite pas à Paris, parce que je veux vraiment conserver la différence. Et mes amis, ils sont à Lyon, ils sont à Bruxelles maintenant, et je dois avoir peut-être 2 amis sur Paris, mais voilà. Et c'est bien comme ça.
Oui. Bon bah écoute, c'était trop intéressant. Écoute, merci Marie pour ton temps, et merci pour petite Marie finalement.
Oui.
Et je pense potentiellement à plein de gens qui nous écoutent, ça va peut-être faire écho à pas mal de gens. Je sais qu'en ce moment, j'ai de plus en plus de jeunes qui me suivent, qui écoutent des podcasts, que je trouve fou, alors que normalement j'ai plus un public, tu vois, qui
a ton âge.
Ouais, et même plus âgé. Plus âgé. Et donc, c'est trop cool. Merci beaucoup.
Avec plaisir.
Écoute, je vais te rendre l'appareil du Spotify Wrapped que tu m'as dit, parce que je vais te faire une petite confidence, un truc un peu mimi, genre.
Elle est gênée de ouf.
Oui. Non, mais je me souviens de petite Léa, qui avait 13 ans, qui était, j'ai commencé les réseaux dans la chambre de mes grands-parents. Trop parce bien. Que mes parents travaillaient l'été et moi j'étais chez eux. Ils venaient d'avoir internet, je deviens admin de cette page Facebook, je me rends compte qu'il y a des gens sur YouTube et tout, je commence à fouiller un peu. Et j'étais tombée sur ton profil YouTube et je me souviens qu'à cette période-là, j'étais dans une période où à chaque fois que je faisais quelque chose de nouveau, genre j'ai été au scout, genre je suis rentrée dans mon école secondaire, à chaque fois, tu devais choisir une marraine. Pour te faire mariner.
Attends,
tu vois le truc arriver?
Attends, je le sens.
Tu vois le truc arriver?
Je le sens.
Et je me souviens de petite Léa en 2013, donc qui venait de créer, enfin qui était sur la page Facebook et qui venait de créer son Instagram. Je me souviens m'être dit, j'aimerais bien demander à Marie si elle veut pas devenir ma marraine des réseaux sociaux. Parce que j'avais l'impression de devoir demander une marraine pour tout, vu que c'était dans mon quotidien, chez les scouts, dans mon école secondaire et tout.
Oh non.
Et donc du coup, c'est hyper drôle de me retrouver finalement dans un lit où j'ai commencé mes réseaux sociaux avec toi. Et du coup, je te rends ton Spotify. Enfin, c'est trop drôle de dire que t'écoutes le podcast maintenant et tout ça. Donc, la boucle est bouclée, finalement.
C'est ça.
Et je trouve ça hyper cute.
C'est très
merci
cute.
Avec d'avoir plaisir. Donné de ton temps.
Merci pour le café.
De toi aussi, avec grand plaisir. Où est-ce qu'on peut te retrouver?
Sur YouTube, sur Instagram et puis dans mon podcast Heure Miroir qui sort tous les mardis. Voilà.
Trop bien. Ben, comme d'habitude, comme je vous dis, prenez soin de vous, soyez bienveillants avec vous-même et avec les autres. SCS et bye!
J'ai failli le faire avec toi, j'ai fait. Non, je le fais pas.